Bienvenue à Comprendre son chien. Mon nom est Audrey Michel et je suis une amoureuse des animaux. Plus particulièrement, je me passionne pour la science comportementale. Avec ce podcast, je veux aider des gens comme moi, c'est-à-dire qui rencontrent des défis face au comportement de leur chien et qui veulent développer une relation plus harmonieuse avec lui. Le tout sans jugement et avec plaisir. Partager ma vie avec une chienne réactive a transformé la personne que je suis. C'est pourquoi je te partage ici mes réflexions et mon expérience, autant mes échecs que mes réussites. Parce que toi et ton chien, vous méritez de vous comprendre. Oh, allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre son chien. Cette semaine, on s'attaque à un gros morceau, les besoins sociaux du chien. Et pour débuter, je vais commencer avec une définition. Donc, quand on parle de sociabilité, on parle du désir qu'un chien a d'interagir avec les autres individus, que ce soit des humains, d'autres chiens ou d'autres espèces animales. Et cette définition-là, encore une fois, elle est tirée du livre Canine Enrichment for the Real World, qui est l'inspiration de la thématique de cette saison-ci, qui est l'enrichissement. Alors, quand on parle de besoins sociaux, c'est influencé par quoi? Il y a plusieurs choses, et je n'irai pas dans le détail de tout ça parce que chaque chose que je vais mentionner pourrait être un épisode en soi. Donc, je vais vraiment énumérer de manière superficielle les différents éléments, les différents facteurs qui influencent les besoins sociaux du chien. Et si ça vous intéresse, bien, vous serez en mesure d'aller fouiller plus par rapport à ça. Donc, en premier lieu, on a la génétique. Donc, on sait que la sociabilité peut être influencée par la génétique. On pense, par exemple, justement, au fait qu'il y a certaines races de chiens qui sont plus sociables que d'autres parce que ça a été sélectionné génétiquement. Ensuite, on a l'environnement prénatal. Donc, une chienne qui est stressée pendant la grossesse, ça a des impacts négatifs sur la sociabilité des chiots à naître. Donc, je pense entre autres aux usines à chiots où est-ce qu'on s'entend que les conditions prénatales sont loin d'être optimales. Et en plus de ça, bien, on n'a généralement pas de sociabilisation qui se produit. Alors, ces deux facteurs-là combinés ensemble fait que souvent les chiots de usines à chiots sont pas nécessairement les plus sociables ou du moins ont des problématiques au niveau de la sociabilité et des interactions appropriées avec les autres chiots. Ensuite, ça, on en entend souvent parler, les périodes de socialisation et de sensibilisation. Donc, on veut exposer notre chiot pendant ces périodes critiques-là à des interactions positives avec les êtres humains, les autres chiens et les autres espèces animales. Et ça, ça ne veut pas dire de les forcer à avoir des interactions sociales. Au contraire, on veut éviter ça parce que là, on pourrait créer des problèmes. On veut les amener dans des situations où est-ce qu'ils vont pouvoir s'éloigner s'ils ont besoin. Le chiot doit participer de manière volontaire à l'interaction. C'est très important. Et ça, la sociabilisation, la sensibilisation, ça pourrait être un épisode, comme j'ai dit, en lui-même. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, mais pour aujourd'hui, je vais m'en tenir à ce que j'ai mentionné. Ensuite, il y a l'apprentissage. Donc, même si on a un chien qui a une génétique favorable, qui a eu un bon environnement prénatal, qui a bien été sociabilisé, il peut toujours arriver un apprentissage qui va faire que les besoins sociaux du chien vont être influencés. Par exemple, on pense à un chien qui se fait attaquer par un autre chien. C'est très possible que l'attitude du chien qui a été attaqué va changer face aux autres chiens. Et ça, c'est la résultante de l'apprentissage que le chien a fait à la suite de l'interaction négative qu'il y a eu avec le chien attaquant. Ensuite, bien, il y a l'âge et la santé. Donc, si on a un vieux chien ou si on a un chien qui est malade, ça se peut que même s'il était sociable auparavant, bien, il le soit moins maintenant parce qu'il se fatigue plus vite, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il a de la douleur. Donc, c'est important, autant pour nos chiots qu'on veut prendre le temps de bien sociabiliser, qu'on veut les mettre dans des situations qui sont positives pour eux, bien, c'est tout aussi important qu'on donne ce cadre-là à nos vieux chiens et nos chiens malades parce que, bien, c'est ça, quand tu as de la douleur, quand tu te sens pas bien, bien, c'est normal que tu aies la mèche plus courte, si je peux le dire comme ça. Donc là, OK, il y a plein de choses qui peuvent influencer les besoins sociaux de notre chien. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe les facteurs qui influencent, on a des chiens qui sont plus sociables que d'autres. Tout comme chez les humains, on a des humains qui sont extravertis, qui sont à la recherche d'interactions sociales, qui aiment ça, être en constante communication avec d'autres êtres humains. On a aussi des personnes qui sont plus introverties, que elles, leur définition d'un bon moment, c'est de rester tranquille à la maison, à lire un livre, et tu leur parles d'aller dans une fête avec de nombreuses personnes, ben là, c'est angoissant pour elles. Donc, ce spectrum-là, il existe aussi chez les chiens. Alors, je dirais qu'il y a quatre catégories de chiens. Il y a les chiens sociables, les chiens tolérants, les chiens sélectifs et les chiens agressifs. Donc, quand on parle de chiens sociables, ce sont ces chiens-là qui ont vraiment le désir d'interagir avec d'autres chiens. Ils sont à la recherche de ce contact-là. Ils aiment ça, ils apprécient ça. Ensuite, bien, les chiens tolérants, le nom le dit, ils ne sont pas nécessairement à la recherche de ce contact-là avec les autres chiens, mais ils vont le tolérer. Ça ne les dérange pas plus que ça. Et finalement, on a les chiens sélectifs et les chiens agressifs. Donc, les chiens sélectifs, c'est les chiens qui vont apprécier quelques chiens, qui vont accepter ou qui vont apprécier ou tolérer quelques chiens, mais que la majorité des chiens préfèrent, ils préfèrent ne pas interagir avec eux. Et les chiens agressifs, bien, c'est les chiens qui vraiment n'apprécient aucunement les interactions avec les autres chiens. Et là, je dis chien ici, mais ça pourrait être humain aussi, là, mais dans cette perspective-ci de besoins sociaux, c'est sûr que j'y pense un peu plus au niveau interaction sociale avec les congénères, mais c'est vrai que, étant donné que nos chiens sont domestiqués, qu'ils vivent avec des humains, ben il faut penser aussi que la sociabilité, ça s'applique également aux êtres humains. Donc, tout ce que je dis, ben ça se vaut aussi pour les humains, mais c'est sûr que moi, j'ai une perspective un peu plus chien à chien. Peu importe où notre chien se situe dans ce spectrum-là, ce qui est important, et là je reviens aux épisodes sur l'autonomie, sur la sécurité et la sûreté, c'est qu'il faut que notre chien, lorsqu'il y a une interaction sociale, ait la possibilité de se retirer de la situation. On ne veut pas que notre chien se retrouve coincé dans un coin de mur, entre le mur et un autre chien. Là, même si notre chien est sociable, il pourrait avoir une altercation parce que si l'autre chien, par exemple, harcèle notre chien qui ne prend pas en considération ses signaux, ben là, ça se peut que notre chien se défende parce qu'il se sent pas en sécurité. Donc, on veut intervenir quand un chien harcèle un autre chien pour éviter justement que la tension augmente et que ça explose. Mais en même temps, on ne veut pas punir si un chien, par exemple, grogne après un autre chien parce que ça, les chiens sont en train de communiquer entre eux. Donc, on ne veut pas enlever ce système de communication-là. Mais c'est important, si on voit que, bon, notre chien grogne, l'autre chien n'écoute pas, bien, on va cesser l'interaction, on va séparer les chiens pour empêcher que ça escalade. Là, tu sais, moi, je parle dans un scénario comme si c'est notre chien qui est la victime de harcèlement, mais ça arrive des fois que c'est notre chien le harceleur. C'est notre rôle aussi à ce moment-là, si on voit que notre chien ne lit pas, ne répond pas adéquatement aux signaux de l'autre chien, c'est à nous d'intervenir et d'empêcher que notre chien poursuive son harcèlement. Donc, quand on parle de besoins sociaux, ben c'est ça, comme j'ai dit, les chiens sociables, tolérants, ben c'est des chiens où est-ce qu'on va rechercher les opportunités pour eux d'interagir avec d'autres chiens. Mais quand on a des chiens qui sont sélectifs ou agressifs, ben là, notre but, c'est vraiment pas de les faire interagir avec d'autres chiens, les faire jouer avec d'autres chiens. Notre but, ça devrait qu'ils deviennent confortables dans la simple présence d'autres chiens, mais pas d'obliger l'interaction. Je vais y revenir, mais avant, je voudrais parler de justement, si on a un chien qui est sociable et tolérant, Comment on fait pour répondre à leurs besoins sociaux? Bien, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs opportunités justement qui existent pour permettre à notre chien de jouer avec d'autres chiens. Donc, la première place qui vient en tête, c'est probablement le parc à chiens. Je sais que le parc à chiens a souvent mauvaise réputation parce que c'est pas rare qu'il arrive des incidents au parc à chiens, mais justement, si on veut aller au parc à chiens avec notre chien et qu'on veut mettre toutes les chances de notre bord, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Bien, premièrement, on veut un grand parc à chiens, un parc à chiens avec énormément d'espace, un parc à chiens avec beaucoup d'espace pour que justement, s'il y a une interaction entre deux chiens, qu'il y a un chien qui n'apprécie pas l'interaction, bien, on veut que ce chien-là soit en mesure de s'enfuir. Donc, c'est pour ça qu'on veut un grand espace. Puis justement, quand je parlais tout à l'heure des chiens harceleurs, qu'on veut intervenir si un chien en harcèle un autre, bien, c'est ce qu'il faut faire dans le cadre du parc à chiens. Ça, c'est pas nécessairement toujours facile parce que si on a des gens au parc à chiens qu'on connaît pas, qui, eux, connaissent moins bien le langage corporel canin, bien, ça peut être plus difficile. Donc, c'est à nous de surveiller que les interactions des chiens sont appropriées et d'intervenir aux besoins. Et dernier point, lorsqu'on va au parc à chiens, on ne veut pas amener de jouets et on ne veut pas amener de nourriture avec nous parce qu'on ne veut pas créer de la compétition entre les chiens, on ne veut pas déclencher de la protection de ressources qui pourrait virer en agression. Donc, on laisse ça dans la voiture et on profite du parc à chiens sans la nourriture, sans les jouets. Autre option qui existe également, les pensions canines avec des groupes de jeux. Il y en a de jour, il y en a que c'est pour la nuit. Ce qui est important, c'est de visiter avant. Et on veut visiter pour avoir une idée de quelles sont les interactions sociales que les chiens ont entre eux. Et on n'hésite pas à demander, ben vous faites quoi si un chien grogne, si un chien snappe un autre chien, de quelle manière vous intervenez pour vous assurer que l'endroit où vous allez envoyer votre chien est aligné avec vos valeurs. Demandez aussi s'ils ont des webcams qui existent, qui sont accessibles pour vous, pour que vous puissiez regarder, dans le fond, comment se passent ces interactions. C'est pas nécessairement très courant, en tout cas, du moins pas au Québec, mais je sais que ça existe à certains endroits ailleurs sur la planète, donc peut-être que ça existe également au Québec ou ailleurs en francophonie. Donc, n'hésitez pas à vous informer de ça, à savoir si ça existe. Puis, un autre point important, c'est de vérifier est-ce que les chiens sont séparés par taille, par personnalité et par type de jeu pour justement favoriser les interactions appropriées. N'hésitez pas non plus à demander quelles sont les certifications des gens qui travaillent là, notamment une certification en premiers soins, hein, parce que même si on prend toutes les précautions du monde, des accidents, ça peut arriver. Donc, est-ce que les gens qui sont sur place vont être en mesure de bien intervenir si jamais votre chien ou le chien de quelqu'un d'autre se blesse? Sinon, ben, on pense au groupe de marche canine. Il y a plein d'événements canins qui existent aussi un peu partout à travers la francophonie. Donc, informez-vous de ces événements-là. Mais encore une fois, c'est toujours si on a un chien qui est sociable et tolérant, on n'amène pas un chien qui est agressif ou sélectif dans ces endroits-là. Et finalement, on peut toujours organiser des journées avec de la famille ou des amis qui ont aussi des chiens. Encore une fois, je me répète, mais important de surveiller les interactions entre les chiens, qu'elles sont appropriées. On intervient si on voit qu'il y a un chien qui en harcèle un autre. Attention, encore une fois, à la protection de ressources. Donc, si on reçoit des gens à la maison, on veut s'assurer de ramasser tous les jouets ou autres trésors. Donc, hein, si notre chien adore ramasser des chaussettes ou des chaussures, bien, on s'assure qu'il n'y en a pas qui traînent, qui pourraient déclencher de la protection de ressources. Même chose si on va en visite chez quelqu'un, bien, avant de laisser nos chiens entrer, on s'assure, est-ce que vous avez bien rangé tout ce qui pourrait être vu comme un jouet ou un, j'appelle ça un trésor, par l'autre chien, pour pas que justement, bien, le chien chez qui on visite ait possiblement de la protection de ressources envers ces petits trésors. Puis, bon, ben là, on a parlé de différentes opportunités pour nos chiens sociables et tolérants, mais comme j'ai dit, nos chiens qui sont sélectifs, agressifs, notre but ne devrait pas de les amener à jouer avec d'autres chiens. Notre but devrait être à ce qu'il soit confortable en la simple présence d'autres chiens. Puis, je prends un exemple. Moi, je suis une personne introvertie dans la vie. Quand je décrivais au départ quelqu'un qui aime rester à la maison, qui est casanier, que l'idée d'aller à une fête ou un party avec plein de personnes, c'est drainant pour eux, bien, ça me décrit tout à fait. Donc, moi, si on commençait à me forcer à devoir aller dans des endroits où il y a plein de gens, alors que j'en ai pas envie, que je suis un peu mal à l'aise parce qu'en plus, je fais de l'anxiété sociale, ça serait too much. Donc, c'est un peu la même chose avec nos chiens. On veut être capable de fonctionner dans la société avec eux. On veut pas qu'ils deviennent en réaction à chaque fois qu'ils croisent un autre chien, mais on voudrait être capable de croiser un autre chien sur la rue sans que notre chien réagisse. C'est ce qu'on devrait viser. Pas de dire « Mais moi, je veux que mon chien rencontre n'importe quel chien et joue avec n'importe quel chien. » Là, on va frapper un mur parce qu'on va à l'encontre des besoins sociaux de notre chien. On impose, dans le fond, notre propre vision à nous de ce que notre chien a de besoin au lieu de réellement écouter ce que notre chien a de besoin. Donc, c'est important avec ces chiens-là, c'est de travailler la désensibilisation et le contre-conditionnement, notamment. Donc, on fait appel à un éducateur canin en méthode positive où on trouve un programme qui existe pour nous aider avec ces bases-là. Mais surtout, ce qu'on ne veut pas faire, c'est mettre notre chien en immersion puis se dire justement, ben, je vais envoyer mon chien dans une pension canine avec d'autres chiens, il va s'arranger, il va s'améliorer parce que ce n'est pas nécessairement le résultat escompté. Et tu sais, dans l'intro, je vous dis que je vous partage aussi mes échecs. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Taiga. Je me suis dit, ah, mais là, il faut que je sociabilise mon chien. Mais déjà, ça, c'était ma première erreur. Un chien adulte, ça ne se sociabilise pas. Et ma deuxième erreur, c'était justement de l'envoyer dans une pension canine. Elle n'a pas été placée avec d'autres chiens dans le même enclos. Il y avait des chiens dans l'enclos à côté d'elle. Et ça l'a vraiment pas aidé. En fait, ses réactions ont commencé à s'amplifier à partir de ce point-là. Donc, je l'ai sensibilisée davantage à la présence des autres chiens parce que c'était too much pour elle. Elle était overwhelmed. Donc, ça l'a simplement aggravé sa problématique au lieu de l'aider, alors que moi, je pensais, bon, ben là, elle va être avec d'autres chiens. Ça va lui enseigner à comment interagir avec d'autres chiens. Non, 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 je me suis plantée. J'ai aggravé le problème. On évite ça parce que vous risquez de vous ramasser avec le même résultat que moi. Et justement, moi, dans mon cas, ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne encore et ce qu'on continue de travailler, c'est la désensibilisation et le contre-conditionnement. Donc moi, Taiga, je la considérerais dans la catégorie de chiens sélectifs. Elle a certains chiens qu'elle va tolérer, mais la majorité des chiens, elle n'a pas nécessairement envie d'interagir avec eux. Au contraire, elle va essayer de les éloigner, de prendre la distance avec eux. Alors, mon objectif, c'est pas justement de dire « bon, ben, je vais l'amener dans un événement, dans un regroupement de chiens husky mélangés, par exemple. » Ça serait le fun, j'aimerais ça. Mais ni elle ni moi, on va passer un bon moment. Et c'est pas réaliste en fonction de ses besoins à elle. Mon objectif avec elle, c'est vraiment d'être capable de vivre en société, de marcher, d'être capable de marcher dans la rue, de croiser un autre chien et qu'on puisse continuer notre chemin sans que sans qu'elle fasse une crise de bacon au bout de la laisse. Puis pour moi, ça a été un gros travail d'accepter ça parce que souvent, quand on adopte un chien, bien, notre désir, c'est de justement sortir à plein d'endroits, profiter d'interagir avec d'autres propriétaires de chiens parce qu'on aime les chiens, donc on a ça en commun, on a envie de passer du temps ensemble. Mais des fois, ben il faut être humble puis dire, ben mon chien, c'est pas ça que lui a de besoin, donc je dois m'adapter, moi, aux besoins de mon chien. Puis mes besoins d'interagir avec d'autres humains qui ont des chiens, ben il va falloir que je le comble autrement sans mon chien. Donc, c'est sur cette réflexion que je vous laisse. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Et comme toujours, si tu as envie de me partager tes propres réflexions par rapport à ce que j'ai amené dans cet épisode-ci, ça me fait toujours plaisir d'échanger. Donc, n'hésite pas à me contacter soit sur Instagram à Barandsou Audrey Barandsou Michel ou sur Facebook à Comprendre son chien. Et d'ici à la semaine prochaine, ben, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ton chien. Bye bye!